VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui, au micro Camille Grosdidier, Anne Arbetson, bonjour. Au sommaire en ce jeudi 12 février 2015.
Au Burundi, la société civile appelle le président Pierre Nkurunziza à ne pas briguer un troisième mandat.
Il y a des discours politiques qui sont appelés à prononcer ici, disant qu'on demandait à la Cour constitutionnelle de faire une interprétation de la Constitution. Mais la Constitution a été inspirée par l'accord d'Arusha.
Maître Armel Nyongere, membre du collectif Campagne citoyenne, halte au troisième mandat.
Report des élections au Nigeria, le président Goodluck Jonathan dit n'avoir pas été consulté.
Je n'ai pas été consulté et je ne veux pas être consulté sur la question ayant trait au calendrier électoral, a déclaré le président candidat de 57 ans, tel que le rapporte à l'AFP.
On suivra les précisions de Jacques Aristide.
Human Rights Watch dénonce le viol d'au moins 200 femmes par les forces armées soudanaises au Darfour.
Et le président Barack Obama demande au Congrès d'autoriser le recours à la force militaire contre l'État islamique. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, Armel Ningatolum Sayo est enfin libre. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, enlevé le mois dernier par des miliciens anti-Balaka, a été libéré dans la nuit de mardi à mercredi. Le gouvernement dit avoir obtenu sa libération sans condition. Le point avec Timothée Donongmaï.
C'est un ouf de soulagement pour la famille du ministre centrafricain retenu en otage pendant près de 3 semaines. Sans préciser l'endroit où la libération s'est effectuée, le ministre centrafricain de la Sécurité publique, Nikesh Samdi Karnou, parle d'une libération sans condition.
Nous avons travaillé du 25 à ce jour pour pouvoir obtenir sa libération. Nous l'avons fait dans une discrétion de négociation. Nous n'avons pas voulu faire de tapage médiatique, mais je vous assure que le gouvernement qui a œuvré, pour preuve, c'est moi qui suis parti moi-même à minuit 3 pour le prendre quelque part. Aucun erreur n'a été donné. Nous avons amené ses ravisseurs au sens de la raison.
Armel Ningatolum Sayo a été kidnappé le 25 janvier dernier par 4 hommes armés dans le 8e arrondissement de Bangui. Dans un communiqué, le gouvernement avait attribué le rapt au même groupe anti-Balaka qui avait enlevé, mi-janvier, une humanitaire française et un religieux centrafricain. Pendant ce temps, un calme relatif règne à Bria, au centre-est du pays, cette ville étant totalement passée sous contrôle des forces internationales après les violents combats qui les ont opposés à des membres de l'ex-Seleka. Selon la MINUSCA, les forces onusiennes, appuyées par des soldats de l'opération Sangaris, ont mené une opération de grande envergure pour récupérer les bâtiments de l'État occupés par d'ex-Seleka hostiles aux négociations.
Scrutin repoussé au Nigeria, le chef de l'État sortant, Goodluck Jonathan, a assuré mercredi soir qu'il n'avait pas été consulté sur ce report de 6 semaines, du 14 février au 28 mars, des élections présidentielles et parlementaires. Il s'agissait de sa première apparition télévisée après l'annonce de cette décision controversée, Jacques Aristide.
Goodluck Jonathan répondait à des questions des journalistes et téléspectateurs en direct sur les chaînes publiques nigérianes. Je n'ai pas été consulté et je ne veux pas être consulté sur la question ayant trait au calendrier électoral, a déclaré le président candidat de 57 ans, tel que le rapporte l'AFP. Pour lui, les difficultés de distribution des cartes d'électeurs, de même que les préoccupations sécuritaires pour le nord-est du pays, étaient des motifs légitimes pour le report décidé par la commission électorale dans le cadre de son mandat constitutionnel. Le président Jonathan a rejeté les critiques de la communauté internationale selon lesquelles le pouvoir sortant veut prolonger son mandat et de conclure que le prochain président nigérian élu prêtera serment le 29 mai, conformément au délai constitutionnel.
Le président Barack Obama a annoncé mercredi le retrait de la majorité des militaires américains déployés en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. La moitié des quelque 3000 soldats déployés ont déjà été rapatriés et environ 1400 autres partiront également d'ici au 30 avril 2015, leur mission ayant été couronnée de succès.
Une centaine restera en Afrique de l'Ouest après cette date pour continuer le travail en collaboration avec l'armée libérienne, divers partenaires régionaux et des civils américains dans la lutte contre Ebola. Le travail n'est pas complètement terminé, a noté le président Obama. Tant que le nombre de cas n'aura pas été ramené à zéro, une nouvelle flambée de la fièvre hémorragique est toujours possible, a-t-il souligné.
En Guinée, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge lancent un appel aux populations, signale l'agence France-Presse. C'est pour demander qu'elles cessent d'attaquer les équipes impliquées dans la lutte contre le virus Ebola. Michel Joseph.
Dans un communiqué conjoint, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge lancent un appel pressant aux populations pour qu'elles cessent de s'en prendre à leurs équipes. Le 8 février, deux membres de la Croix-Rouge partis en mission contre l'Ebola ont été battus à Forêt-Kaya, localité proche de la Sierra Leone. C'est dans cette même région qu'un policier et son chauffeur ont été tués le 10 janvier et leurs corps brûlés parce que des habitants les accusaient de propager le virus. Par ailleurs, dans plusieurs quartiers de Conakry, des élèves désertent les écoles après une rumeur disant que la Croix-Rouge recherchait des malades d'Ebola dans certains établissements, ce que rejette l'ONG. Même si la propagation de l'épidémie a connu un net recul, la peur est toujours là. En septembre 2014, 8 membres d'une équipe de sensibilisation avaient été tués dans la localité de Womé, dans le sud-est de la Guinée, par des habitants qui niaient la réalité du virus Ebola.
Au Soudan, Human Rights Watch dénonce le viol d'au moins 200 femmes par les forces armées soudanaises au cours d'une opération de 36 heures dans la ville de Tabit, au Darfour. L'Organisation internationale des droits de l'homme accuse les autorités soudanaises de vouloir dissimuler le crime et demande d'autres enquêtes avec les Nations Unies.
Margaret Bécheux, notre correspondante aux Nations Unies à New York, a interviewé sur la question le directeur Nations Unies à Human Rights Watch, Philippe Bolopion.
Après avoir fait une enquête très difficile autour de ce qui s'est passé dans la ville de Tabit au Darfour fin octobre et début novembre, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait des informations très crédibles faisant état du viol de plus de 200 femmes par les forces armées soudanaises sur une période de 36 heures, des viols d'une brutalité extrême, des femmes violées dans leur maison, devant leurs enfants, des fillettes de moins de 12 ans brutalement violées par plusieurs soldats. Donc nous avons pu établir ces faits en dépit des efforts du gouvernement soudanais pour couvrir ce qui s'est passé et nous espérons que notre rapport va rappeler le Conseil de sécurité à ses obligations. Nous pensons que le Conseil de sécurité doit monter le ton contre les autorités soudanaises, demander à ce que les troupes de l'ONU et de l'Union africaine puissent se rendre sur place pour protéger ces personnes, menacer les autorités soudanaises de sanctions si elles continuent à empêcher l'ONU de faire son travail. Nous pensons aussi que l'Union africaine doit faire ce qu'elle peut pour faire pression sur les autorités soudanaises. Et enfin, nous estimons qu'il est essentiel que l'ONU fasse sa propre enquête. Nous ne prétendons pas être arrivés à une conclusion définitive sur la magnitude de ce qui s'est passé dans cette ville. Nous pensons que l'ONU doit faire son travail et également enquêter sur ça.
C'était Philippe Bolopion, directeur Nations Unies à Human Rights Watch, au micro de Margaret Béchir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a demandé au Congrès d'autoriser le recours à la force militaire contre l'État islamique. Cette requête doit être approuvée par la Chambre des représentants et par le Sénat, où de vifs débats sont attendus, les républicains jugeant la politique du président Obama trop timide face aux extrémistes.
Monsieur Obama a bien précisé qu'il ne cherche pas à faire autoriser une offensive sur le terrain comme celle menée en Afghanistan et en Irak. Il s'agit plutôt de déployer des forces spéciales américaines si Washington apprenait par exemple où se réunissent les dirigeants de l'État islamique.
La loi autorisant la construction de l'oléoduc Keystone XL, un projet controversé qui doit relier les gisements canadiens de sable bitumineux aux raffineries de Louisiane, a été votée par le Congrès. La Chambre des représentants l'a approuvée mercredi par 270 voix contre 152. Le Sénat avait adopté le texte le 29 janvier dernier. Les républicains, qui contrôlent actuellement les deux chambres du Congrès, avaient fait de l'adoption du texte proposé initialement en 2008 l'une de leurs priorités. Le président Obama a promis d'opposer son veto à cette mesure et les républicains ne disposent pas de la majorité absolue nécessaire pour passer outre à un veto présidentiel.
16 ans de réclusion pour le capitaine du Costa Concordia, navire de croisière dont le naufrage près de l'île italienne de Giglio a fait 32 morts en janvier 2012. Francesco Cettino était accusé d'avoir trop rapproché le Concordia, qui transportait plus de 4200 personnes du rivage, ainsi que d'avoir quitté le navire avant l'évacuation de tous les survivants. On enchaîne avec la Minute Éco en compagnie de Nathalie Barge. Bonjour Nathalie. Alors, le commerce électronique a un très bel avenir.
Le e-commerce a un bel avenir sur le continent grâce à l'émergence de la classe moyenne, indique la revue Afrique Inside, citant un rapport de Research and Markets qui estime une augmentation de 40% au cours de la prochaine décennie. La Guinée va lancer des appels d'offres pour l'exploration d'une vingtaine de blocs pétroliers offshore, rapporte Reuters, citant des propos du ministre des Mines Kerfala Yansané, actuellement au salon Mining Indaba, qui se tient au Cap en Afrique du Sud. Affaire SwissLeaks, le consortium international des journalistes d'investigation a frappé fort en dévoilant un système bien huilé de fuite de capitaux encouragé par la banque britannique HSBC à travers sa filiale suisse entre 2006 et 2007. Les hommes d'affaires libano-syriens seraient particulièrement assidus en matière d'évasion fiscale en Afrique de l'Ouest. À Dakar, les journalistes sont sur les chapeaux de roue pour recouper les informations relatives à 310 comptes sénégalais. Elle est citée par les enquêteurs. La réaction de Pierre-Édouard Faye, rédacteur en chef de Wolf TV.
Le fait de prendre les devises d'un pays et de les transférer dans un autre pays pour, dit-on, fuir le fisc, dans un pays où on parle beaucoup de patriotisme économique, aller planquer son argent dans des paradis fiscaux en Suisse me paraît quelque chose d'exagéré et grave.
Et la chute et le maintien attendu des prix du pétrole au niveau actuel ne permettront pas à la croissance mondiale de se hisser au-delà des 3% les deux années à venir, a estimé Moody's dans ses prévisions conjoncturelles globales, soulignant que la faiblesse des cours du baril affectera les économies exportatrices.
On passe au sport. Présentation Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Le Maroc prépare sa riposte après l'annonce de sa suspension de toute participation aux Cannes 2017 et 2019.
Oui, la fédération marocaine se déclare grandement étonnée des mesures annoncées par la CAF et affirme qu'elles ne correspondent en rien aux conclusions de la réunion tenue préalablement au Caire avec le président de la Confédération africaine. Le comité directeur de la Fédération royale rejette l'ensemble de ces sanctions sportives et financières. La fédération marocaine pourrait faire appel.
Le tribunal arbitral du sport a donné gain de cause à la JS Kabylie.
Saisi par le club algérien pour son interdiction de participer aux compétitions interclubs de la CAF pendant 2 ans, le TAS a tout simplement levé la sanction. Après avoir été sanctionné par sa propre fédération suite à l'affaire Ebossé, la JSK s'était vue interdite de participation aux compétitions interclubs de la CAF durant les saisons 2015 et 2016 par le comité exécutif.
On reparle de la mort de Samuel Wanjiru, qui serait bien criminel.
Un ancien médecin légiste du gouvernement kényan a confirmé que l'ancien champion olympique avait bien été tué en 2011 et qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Samuel Wanjiru est décédé le 16 mai 2011 à l'âge de 24 ans. Il avait remporté 4 marathons et à Pékin en 2008, âgé seulement de 21 ans, il était devenu le premier kényan à décrocher l'or olympique dans cette discipline. Enfin Camille, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Le Miami Heat, plutôt en froid la nuit dernière, puisqu'il s'est laissé battre de 20 points par les Cleveland Cavaliers sur le score de 113-93. Une autre défaite humiliante, celle de Memphis face à Oklahoma City, 105-89. Golden State a battu Minnesota 94-91. Indiana a expédié la Nouvelle-Orléans 106-93. Sacramento s'est incliné devant Milwaukee 103-111. Un score beaucoup plus serré par contre rencontre pour Washington qui n'a perdu que de 2 points face à Toronto 95-93. Et une excellente soirée pour les Spurs de San Antonio. Ils ont triomphé des Pistons de Detroit 104-87. Danny Green a marqué 19 points et Tony Parker en a ajouté 17. Par contre, Boston n'a battu Atlanta que d'un point, 89-88, et Orlando a eu raison de New York, 89-83. Utah s'est incliné devant Dallas, 82-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour présenter les dossiers du jour. Au Burundi, la société civile appelle le président Pierre Nkurunziza, soupçonné de vouloir remplir pour un troisième mandat, à renoncer dès maintenant à prévenir les violences. Le collectif Campagne citoyenne halte au troisième mandat, qui regroupe 304 associations, avait adressé au début de ce mois une discrète lettre au chef de l'État pour lui demander de s'abstenir de briguer un troisième mandat, mais face au silence de la présidence, le groupe est revenu à la charge. Timothée Donongmaï, adjoint à Bujumbura, Maître Armel Niyongere, membre du collectif.
Ce qui nous fait croire qu'il va briguer un troisième mandat, c'est le discours qu'il prononce à Redifera Kadio, en disant qu'il n'est pas candidat indépendant. Que si jamais le parti CNDD-FDD le présente comme candidat, il sera candidat. Donc, c'est un cri d'alarme pour qu'il ne puisse pas violer le principe de respect des mandats présidentiels ou qu'il ne violera pas l'accord d'Arusha et la constitution de la République du Burundi.
Une disposition du code électoral qui aurait permis au président Nkurunziza de se maintenir au pouvoir a été abandonnée. Pourquoi pensez-vous qu'il pourra néanmoins briguer un autre mandat?
Il y a des discours politiques qui sont en train d'être prononcés ici en disant qu'on demandait à la Cour constitutionnelle de faire l'interprétation de la Constitution. Mais la Constitution est claire. La Constitution a été inspirée par l'accord d'Arusha. L'esprit de l'accord d'Arusha était qu'un président puisse diriger 2 mandats et un mandat renouvelable 1 fois. Donc, qu'un président ne pouvait pas briguer un 3e mandat. Donc, on ne voit pas comment on dit qu'il faut demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution alors que les dispositions sont claires. Et nous avons peur qu'une fois que le président demandera à la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution, on n'a pas confiance au juge burundais. On a déjà montré que la justice burundaise n'est pas du tout indépendante. Que les juges de la Cour constitutionnelle, comme les autres juges, les autres juridictions, sont nommés par l'exécutif. Donc, ils ne sont pas indépendants. C'est pour cela, au lieu de saisir une cour qui n'est pas du tout indépendante, il faut être honnête et laisser la place aux autres.
Quelle a été la réaction des autorités burundaises à votre appel?
Bon, on ne nous a pas donné la réponse, mais on a écrit une lettre. On va continuer à faire des actions. Il y aura beaucoup d'actions pour s'insurger en faux contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza.
Maître Armel Niyongere, membre du collectif Campagne citoyenne halte au 3e mandat, il était joint à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au micro, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Le Monde aujourd'hui. En République démocratique du Congo, le gouvernement avait donné aux rebelles hutu-rwandais jusqu'au 2 janvier pour déposer les armes ou être désarmés de force. Depuis la fin de cet ultimatum, Kinshasa a annoncé une offensive contre les rebelles FDLR qui sévissent dans l'est du pays. Sur les difficultés d'une telle opération, Idriss Fall a recueilli l'analyse de Godé Chiriaguma, un Congolais originaire du Massissi et actuellement installé aux États-Unis.
C'est depuis 1996 que la population de l'Est de la République démocratique du Congo est sous le bruit des armes. Et maintenant, on veut encore amener des armes. On ne sait pas le nombre de ces FDLR qu'on dit qu'on va chasser. Ce sont les enfants des Rwandais qui sont restés au Congo. Ils parlent déjà la langue locale. Et quelques-uns parmi eux se sont déjà mariés à nos filles congolaises. Alors, quels sont les systèmes le gouvernement qui attaque par les armes va utiliser pour distinguer les FDLR des Congolais?
Mais on a déjà essayé le désarmement volontaire. Très peu se sont rendus. Il y en a qui ont déposé les armes parmi les FDLR.
Le volontariat, ça va de pair avec la sécurité. Si même on parvenait à avoir 2, 3, 4, 5 des FDLR, on les amène au Rwanda, c'est comme les amener dans le feu.
Mais s'ils ne sont pas désarmés, il n'y aura jamais de paix dans l'Est.
Oui, le FDLR n'est pas dangereux pour les Rwandais. Au contraire, il est dangereux pour les Congolais. Il tue au Congo, il ne tue pas au Rwanda. Ce sont les autorités congolaises qui devraient s'imposer et demander à l'opinion internationale de demander à Kagame de passer par le pourparler comme eux aussi, il force le Congo de passer dans le pourparler pour les différentes rébellions à la République démocratique du Congo. Le président de la Tanzanie, Kikwete, avait proposé cela, que le Rwanda passe par des négociations politiques.
Kagame a déjà tenté des opérations conjointes pour désarmer les FDLR.
Ces Rwandais qui sont restés au Congo, ils ont toujours la peur d'être tués quand ils arrivent au Rwanda. Ils n'ont pas la garantie. Mais s'ils passent par les négociations avec des accords signés, ça peut leur donner au moins de la garantie. S'il y a des PP, alors le monde entier peut demander le gouvernement en place, disait par Kagame, leur demander mais pourquoi vous avez passé à côté des accords que vous avez eus. Je me souviens, il y avait eu un représentant de FDLR qui venait de Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Masisi. Ce type-là, il était parti représenter le FDLR, mais quand il est arrivé juste dans la ville de Gisenyi, il a été attrapé, si je peux utiliser le terme, on l'a mangé avant qu'il n'arrive même dans la capitale de Kigali.
Godé Chiriaguma, un Congolais originaire de Masisi, il est installé actuellement aux États-Unis.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, au micro Camille Grosdidier. Le président Barack Obama a demandé hier au Congrès d'autoriser le recours à la force militaire contre l'État islamique en Irak et en Syrie, enclenchant ce qui pourrait être un long et houleux débat à la Chambre des représentants et au Sénat. L'initiative suscite déjà les critiques de certains républicains et démocrates, mais pour des raisons tout à fait différentes. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Cela faisait des mois que le sénateur démocrate Tim Kaine de la Virginie, un proche allié du président Obama, lui demandait d'obtenir le consentement du Congrès aux opérations militaires en cours contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Enfin, nous sommes au point où le Congrès va pouvoir prendre au sérieux son obligation la plus solennelle, s'est exclamé hier M. Kaine. Après tout, a-t-il rappelé, la War Powers Resolution de 1973 avait été adoptée pour justement limiter le pouvoir du président d'envoyer les forces américaines au combat à l'étranger pour plus de 60 jours sans une déclaration de guerre du Congrès. Tout en saluant lui aussi la requête du chef de l'exécutif, le président de la Chambre, le républicain John Boehner, se dit préoccupé que celle-ci n'accorde pas assez de flexibilité aux chefs militaires américains. On n'est qu'au début de longues délibérations à venir, a-t-il souligné. Le dépôt de cette demande d'autorisation est le début d'un processus législatif. Il y aura des audiences, un examen en comité des différentes dispositions du projet, j'en suis sûr, à mesure que nous avançons dans ce processus. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire avant que je ne puisse dire ce qui me convient ou pas, a expliqué le député John Boehner. Plusieurs démocrates ont exprimé la préoccupation inverse, estimant que la requête du président limitant à 3 ans la durée des opérations contre les militants islamistes est trop vague. Le député Adam Schiff est du nombre.
The other major issue is the language.
L'autre problème majeur est que la formulation relative à la présence des troupes au sol est très vaste, très ambiguë. Aucun de nous ne sait vraiment ce que signifient des opérations offensives durables. C'est insurgé le député Schiff qui est d'avis que le projet a été délibérément rédigé de façon ambiguë. Pour sa part, la chef de file de la minorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, a exprimé l'opinion de beaucoup d'Américains qui redoutent une implication des États-Unis dans une autre guerre terrestre prolongée au Moyen-Orient. Certains analystes prédisent que le président Obama pourrait faire face à plus d'opposition de la part des législateurs de son propre camp que des républicains qui contrôlent maintenant la Chambre et le Sénat.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Affaire SwissLeaks, le consortium international des journalistes d'investigation a frappé fort en dévoilant un système de fuite de capitaux africains encouragé par la banque britannique HSBC à travers sa filiale suisse entre 2006 et 2007. Nathalie Barge a joint à Dakar Pierre-Édouard Feid, rédacteur en chef de Wolf TV.
La seule personne dont le nom a été révélé et qui soit véritablement une personnalité connue, c'est Youssou N'Dour. Mais en tout cas, le sentiment le mieux partagé, c'est le sentiment de surprise, quoi.
Et vous-même, en tant que journaliste, est-ce que vous avez eu l'opportunité, justement, de faire des recherches pour voir si ces informations pouvaient être recoupées?
Absolument, ça, c'est le travail, je dirais, ordinaire d'un journaliste. Hein. Les confrères des différents pays concernés sont en train de travailler activement pour connaître en réalité les personnalités qui se cacheraient derrière ces pratiques-là. Parce qu'il faut qu'on le dise également, c'est une pratique grave. Dans un pays où on parle beaucoup de patriotisme économique, aller planquer son argent dans des paradis fiscaux en Suisse me paraît quelque chose d'exagéré et grave.
Mais ce n'est tout de même pas nouveau, ce type de comportement.
Absolument pas. Moi, je ne suis pas surpris parce que, bon, ça, c'est une pratique très connue en Afrique. On sait que les dirigeants africains, après le pouvoir étruque, bon, ils envoient de l'argent en Suisse où ils sont beaucoup plus en sécurité. Mais la surprise, c'est le nombre, quoi, des personnes ou bien le montant même de l'argent planqué en Suisse dans un pays aussi pauvre comme le Sénégal. Si on parle de plus de 90 milliards ou bien, je ne sais pas, de 900 milliards planqués quelque part en Suisse, il y a de quoi réfléchir.
La société civile est très active au Sénégal. Est-ce qu'elle envisage éventuellement de demander des comptes?
C'est l'une de mes surprises. On n'a pas encore entendu un membre éminent de la société civile prendre la parole et peut-être dénoncer de telles pratiques et même éventuellement envisager un plan d'action.
Pierre-Édouard Fay, rédacteur en chef de Wolf TV au Sénégal. Washington, la Voix de l'Amérique, délestage et coupe de courant sont les mots les mieux partagés dans beaucoup de pays africains. Qu'ils soient riches ou pauvres, personne n'est épargné. Les défis sont nombreux pour garder les maisons éclairées et les machines en fonctionnement sur le continent. Michel Joseph.
Une petite entreprise de Nairobi avait débuté par la location des costumes de fête et s'est maintenant développée dans le secteur des services aux restaurants et aux supermarchés. L'entreprise fournit plus d'une tonne de crème glacée par jour. C'est une histoire à succès, mais pour Betty Mbite, qui gère cette petite compagnie, le manque d'électricité met en péril ses activités.
À un moment, l'année dernière, lorsque nous sommes restés 3 jours sans électricité, nous ne pouvions rien faire du tout parce que les machines ont besoin du jus pour marcher, une chambre froide a besoin d'électricité et aucun travail ne peut être fait sans électricité.
Pour garder ses clients heureux, il faut donc du courant 24 heures sur 24, car sans courant, il n'y a pas de glace. L'électricité est donc l'une des premières dépenses de cette compagnie. Le problème n'est pas spécifique au Kenya, on le rencontre dans presque tous les pays africains. L'électricité est souvent inaccessible, trop chère et trop souvent non disponible. Quelques 600 millions d'Africains n'y ont pas accès. Le continent consomme moins d'électricité que partout au monde, mais paye le même tarif qu'aux États-Unis et le double de celui en vigueur en Asie de l'Est.
Donald Kaberuka, président de la BAD, la Banque africaine de développement, au Forum de Davos cette année.
At this moment, every single African country is experiencing energy.
En ce moment, chaque pays africain subit des pénuries d'énergie et des coupures de courant. Cela coûte au continent 2% de son produit intérieur brut. En fait, un leader africain dit que nous sommes un continent de miracles. Si nous avons une croissance de l'ordre de 5% sans assez de courant, imaginez ce que ce serait si nous avions suffisamment d'électricité.
Selon lui, le manque d'infrastructures est l'un des plus gros défis pour la distribution du courant. Même des pays riches comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria en arrivent à rationner le courant. Et d'après le patron de la BAD, la solution ne saurait être pays par pays.
It is not possible for our individual.
C'est impossible pour nos 54 pays pris individuellement d'avoir la sécurité énergétique à partir de leurs ressources domestiques. Nous devons créer un marché régional viable pour l'électricité. Et ça, c'est possible.
Bien sûr, les investisseurs mettent de l'argent pour des projets d'énergie renouvelable sur le continent. Cela aide un peu, mais il y a beaucoup à faire pour combler le fossé.
Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui et une très bonne journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Au micro Camille Grosdidier, Anne Albertson, bonjour. Au sommaire en ce jeudi 12 février 2015.
Au Burundi, la société civile appelle le président Pierre Nkurunziza à ne pas briguer un troisième mandat.
Il y a deux discours politiques qui sont appelés prononcés ici, disant qu'on demandait à la Cour constitutionnelle de faire une interprétation de la Constitution. Mais la Constitution a été inspirée par l'accord d'Arusha.
Maître Armel Nyongere, membre du collectif Campagne citoyenne, halte au troisième mandat.
Report des élections au Nigeria, le président Goodluck Jonathan dit n'avoir pas été consulté.
Je n'ai pas été consulté et je ne veux pas être consulté sur la question ayant trait au calendrier électoral, a déclaré le président candidat de 57 ans, tel que le rapporte à l'AFP.
On suivra les précisions de Jacques Aristide.
Human Rights Watch dénonce le viol d'au moins 200 femmes par les forces armées soudanaises au Darfour.
Et le président Barack Obama demande au Congrès d'autoriser le recours à la force militaire contre l'État islamique. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, Armel Ningatolum Sayo est enfin libre. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, enlevé le mois dernier par des miliciens anti-Balaka, a été libéré dans la nuit de mardi à mercredi. Le gouvernement dit avoir obtenu sa libération sans condition. Le point avec Timothée Donongmaï.
C'est un ouf de soulagement pour la famille du ministre centrafricain retenu en otage pendant près de 3 semaines. Sans préciser l'endroit où la libération s'est effectuée, le ministre centrafricain de la Sécurité publique, Nikes Samdi Karnou, parle d'une libération sans condition.
Nous avons travaillé du 25 à ce jour pour pouvoir obtenir sa libération. Nous l'avons fait dans une discrétion de négociation. Nous n'avons pas voulu faire de tapage médiatique, mais je vous assure que le gouvernement qui a œuvré, pour preuve, c'est moi qui suis parti moi-même à minuit 3 pour le prendre quelque part. Aucun erreur n'a été donné. Nous avons amené ces ravisseurs au sens de la raison.
Armel Ningatolum Sayo a été kidnappé le 25 janvier dernier par 4 hommes armés dans le 8e arrondissement de Bangui. Dans un communiqué, le gouvernement avait attribué le rapt au même groupe anti-Balaka qui avait enlevé, mi-janvier, une humanitaire française et un religieux centrafricain. Pendant ce temps, un calme relatif règne à Bria, au centre-est du pays, cette ville étant totalement passée sous contrôle des forces internationales après les violents combats qui les ont opposés à des membres de l'ex-Seleka. Selon la MINUSCA, les forces onusiennes, appuyées par des soldats de l'opération Sangaris, ont mené une opération de grande envergure pour récupérer les bâtiments de l'État occupés par d'ex-Seleka hostiles aux négociations.
Scrutin repoussé au Nigeria, le chef de l'État sortant, Goodluck Jonathan, a assuré mercredi soir qu'il n'avait pas été consulté sur ce report de 6 semaines, du 14 février au 28 mars, des élections présidentielles et parlementaires. Il s'agissait de sa première apparition télévisée après l'annonce de cette décision controversée, Jacques Aristide.
Goodluck Jonathan répondait à des questions des journalistes et téléspectateurs en direct sur les chaînes publiques nigérianes. « Je n'ai pas été consulté et je ne veux pas être consulté sur la question ayant trait au calendrier électoral », a déclaré le président candidat de 57 ans, tel que le rapporte l'AFP. Pour lui, les difficultés de distribution des cartes d'électeurs, de même que les préoccupations sécuritaires pour le nord-est du pays, étaient des motifs légitimes pour le report décidé par la commission électorale dans le cadre de son mandat constitutionnel. Le président Jonathan a rejeté les critiques de la communauté internationale selon lesquelles le pouvoir sortant veut prolonger son mandat et de conclure que le prochain président nigérian élu prêtera serment le 29 mai, conformément au délai constitutionnel.
Le président Barack Obama a annoncé mercredi le retrait de la majorité des militaires américains déployés en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. La moitié des quelque 3000 soldats déployés ont déjà été rapatriés et environ 1400 autres partiront également d'ici au 30 avril 2015, leur mission ayant été couronnée de succès.
Une centaine restera en Afrique de l'Ouest après cette date pour continuer le travail en collaboration avec l'armée libérienne, divers partenaires régionaux et des civils américains dans la lutte contre Ebola. Le travail n'est pas complètement terminé, a noté le président Obama. Tant que le nombre de cas n'aura pas été ramené à zéro, une nouvelle flambée de la fièvre hémorragique est toujours possible, a-t-il souligné.
En Guinée, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge lancent un appel aux populations, signale l'agence France-Presse. C'est pour demander qu'elles cessent d'attaquer les équipes impliquées dans la lutte contre le virus Ebola. Michel Joseph.
Dans un communiqué conjoint, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge lancent un appel pressant aux populations pour qu'elles cessent de s'en prendre à leurs équipes. Le 8 février, deux membres de la Croix-Rouge partis en mission contre l'Ebola ont été battus à Forêt-Kaya, localité proche de la Sierra Leone. C'est dans cette même région qu'un policier et son chauffeur ont été tués le 10 janvier et leurs corps brûlés parce que des habitants les accusaient de propager le virus. Par ailleurs, dans plusieurs quartiers de Conakry, des élèves désertent les écoles après une rumeur disant que la Croix-Rouge recherchait des malades d'Ebola dans certains établissements, ce que rejette l'ONG. Même si la propagation de l'épidémie a connu un net recul, la peur est toujours là. En septembre 2014, 8 membres d'une équipe de sensibilisation avaient été tués dans la localité de Womé, dans le sud-est de la Guinée, par des habitants qui niaient la réalité du virus Ebola.
Au Soudan, Human Rights Watch dénonce le viol d'au moins 200 femmes par les forces armées soudanaises au cours d'une opération de 36 heures dans la ville de Tabit, au Darfour. L'Organisation internationale des droits de l'homme accuse les autorités soudanaises de vouloir dissimuler le crime et demande d'autres enquêtes avec les Nations Unies.
Margaret Bécheux, notre correspondante aux Nations Unies à New York, a interviewé sur la question le directeur Nations Unies à Human Rights Watch, Philippe Bolopion.
Après avoir fait une enquête très difficile autour de ce qui s'est passé dans la ville de Tabit au Darfour fin octobre et début novembre, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait des informations très crédibles faisant état du viol de plus de 200 femmes par les forces armées soudanaises sur une période de 36 heures. Des viols d'une brutalité extrême, des femmes violées dans leur maison, devant leurs enfants, des fillettes de moins de 12 ans brutalement violées par plusieurs soldats. Donc nous avons pu établir ces faits en dépit des efforts du gouvernement soudanais pour couvrir ce qui s'est passé et nous espérons que notre rapport va rappeler le Conseil de sécurité à ses obligations. Nous pensons que le Conseil de sécurité doit monter le ton contre les autorités soudanaises, demander à ce que les troupes de l'ONU et de l'Union africaine puissent se rendre sur place pour protéger ces personnes, menacer les autorités soudanaises de sanctions si elles continuent à empêcher l'ONU de faire son travail. Nous pensons aussi que l'Union africaine doit faire ce qu'elle peut pour faire pression sur les autorités soudanaises. Et enfin, nous estimons qu'il est essentiel que l'ONU fasse sa propre enquête. Nous ne prétendons pas être arrivés à une conclusion définitive sur la magnitude de ce qui s'est passé dans cette ville. Nous pensons que l'ONU doit faire son travail et également enquêter sur ça.
C'était Philippe Bolopion, directeur Nations Unies à Human Rights Watch, au micro de Margaret Béchir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a demandé au Congrès d'autoriser le recours à la force militaire contre l'État islamique. Cette requête doit être approuvée par la Chambre des représentants et par le Sénat, où de vifs débats sont attendus, les Républicains jugeant la politique du président Obama trop timide face aux extrémistes.
Monsieur Obama a bien précisé qu'il ne cherche pas à faire autoriser une offensive sur le terrain, comme celle menée en Afghanistan et en Irak. Il s'agit plutôt de déployer des forces spéciales américaines, si Washington apprenait par exemple où se réunissent les dirigeants de l'État islamique.
La loi autorisant la construction de l'oléoduc Keystone XL, un projet controversé qui doit relier les gisements canadiens de sable bitumineux aux raffineries de Louisiane, a été votée par le Congrès. La Chambre des représentants l'a approuvée mercredi par 270 voix contre 152. Le Sénat avait adopté le texte le 29 janvier dernier. Les Républicains, qui contrôlent actuellement les deux chambres du Congrès, avaient fait de l'adoption du texte proposé initialement en 2008 l'une de leurs priorités. Le président Obama a promis d'opposer son veto à cette mesure et les Républicains ne disposent pas de la majorité absolue nécessaire pour passer outre à un veto présidentiel.
16 ans de réclusion pour le capitaine du Costa Concordia, navire de croisière dont le naufrage près de l'île italienne de Giglio a fait 32 morts en janvier 2012. Francesco Cettino était accusé d'avoir trop rapproché le Concordia, qui transportait plus de 4200 personnes du rivage, ainsi que d'avoir quitté le navire avant l'évacuation de tous les survivants. On enchaîne avec la Minute Éco en compagnie de Nathalie Barge. Bonjour Nathalie. Alors, le commerce électronique a un très bel avenir.
Le e-commerce a un bel avenir sur le continent grâce à l'émergence de la classe moyenne, indique la revue Afrique Inside, citant un rapport de Research and Markets qui estime une augmentation de 40% au cours de la prochaine décennie. La Guinée va lancer des appels d'offres pour l'exploration d'une vingtaine de blocs pétroliers offshore, rapporte Reuters, citant des propos du ministre des Mines Kerfala Yansané, actuellement au salon Mining Indaba, qui se tient au Cap en Afrique du Sud. Affaire SwissLeaks, le consortium international des journalistes d'investigation a frappé fort en dévoilant un système bien huilé de fuite de capitaux encouragé par la banque britannique HSBC à travers sa filiale suisse entre 2006 et 2007. Les hommes d'affaires libano-syriens seraient particulièrement assidus en matière d'évasion fiscale en Afrique de l'Ouest. À Dakar, les journalistes sont sur les chapeaux de roue pour recouper les informations relatives à 310 comptes sénégalais. Cité par les enquêteurs, la réaction de Pierre-Édouard Fay, rédacteur en chef de Wolf TV.
Le fait de prendre les devises d'un pays et de les transférer dans un autre pays pour, dit-on, fuir le fisc, dans un pays où on parle beaucoup de patriotisme économique, aller planquer son argent dans des paradis fiscaux en Suisse me paraît quelque chose d'exagéré et grave.
Et la chute et le maintien attendu des prix du pétrole au niveau actuel ne permettront pas à la croissance mondiale de se hisser au-delà des 3% les deux années à venir, a estimé Moody's dans ses prévisions conjoncturelles globales, soulignant que la faiblesse des cours du baril affectera les économies exportatrices.
On passe au sport. Présentation Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Le Maroc prépare sa riposte après l'annonce de sa suspension de toute participation aux Cannes 2017 et 2019.
Oui, la fédération marocaine se déclare grandement étonnée des mesures annoncées par la CAF et affirme qu'elles ne correspondent en rien aux conclusions de la réunion tenue préalablement au Caire avec le président de la Confédération africaine. Le comité directeur de la Fédération royale rejette l'ensemble de ces sanctions sportives et financières. La fédération marocaine pourrait faire appel.
Le tribunal arbitral du sport a donné gain de cause à la JS Kabylie.
Saisi par le club algérien pour son interdiction de participer aux compétitions interclubs de la CAF pendant deux ans, Le TAS a tout simplement levé la sanction. Après avoir été sanctionné par sa propre fédération suite à l'affaire Ebossé, la JSK s'était vue interdite de participation aux compétitions interclubs de la CAF durant les saisons 2015 et 2016 par le comité exécutif.
On reparle de la mort de Samuel Wanjiru, qui serait bien criminel.
Un ancien médecin légiste du gouvernement kényan a confirmé que l'ancien champion olympique avait bien été tué en 2011 et qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Samuel Wanjiru est décédé le 16 mai 2011 à l'âge de 24 ans. Il avait remporté 4 marathons et à Pékin en 2008, âgé seulement de 21 ans, il était devenu le premier kényan à décrocher l'or olympique dans cette discipline. Enfin Camille, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Le Miami Heat, plutôt en froid la nuit dernière, puisqu'il s'est laissé battre de 20 points par les Cleveland Cavaliers sur le score de 113-93. Une autre défaite humiliante, celle de Memphis face à Oklahoma City, 105-89. Golden State a battu Minnesota 94-91. Indiana a expédié la Nouvelle-Orléans 106-93. Sacramento s'est incliné devant Milwaukee 103-111. Un score beaucoup plus serré par contre pour Washington, qui n'a perdu que de 2 points face à Toronto, 95-93. Et une excellente soirée pour les Spurs de San Antonio. Ils ont triomphé des Pistons de Detroit, 104-87. Danny Green a marqué 19 points et Tony Parker en a ajouté 17. Par contre, Boston n'a battu Atlanta que d'un point, 89-88, et Orlando a eu raison de New York, 89-83. Utah s'est incliné devant Dallas, 82-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous pour présenter les dossiers du jour. Au Burundi, la société civile appelle le président Pierre Nkurunziza, soupçonné de vouloir remplir pour un troisième mandat, à renoncer dès maintenant à prévenir les violences. Le collectif Campagne citoyenne halte au troisième mandat, qui regroupe 304 associations, avait adressé au début de ce mois une discrète lettre au chef de l'État pour lui demander de s'abstenir de briguer un troisième mandat, mais face au silence de la présidence, le groupe est revenu à la charge. Timothée Donongmaï, adjoint à Bujumbura, maître Armel Niyongere, membre du collectif.
Ce qui nous fait croire qu'il va briguer un troisième mandat, c'est le discours qu'il prononce à Redifera Kadio, en disant qu'il n'est pas candidat indépendant. Que si jamais le parti CNDD-FDD le présente comme candidat, il sera candidat. Donc, c'est un cri d'alarme pour qu'il ne puisse pas violer le principe de respect des mandats présidentiels ou qu'il ne violera pas l'accord d'Arusha et la constitution de la République du Burundi.
Une disposition du code électoral qui aurait permis au président Nkurunziza de se maintenir au pouvoir a été abandonnée. Pourquoi pensez-vous qu'il pourra néanmoins briguer un autre mandat?
Il y a des discours politiques qui sont en train d'être prononcés ici en disant qu'on demandait à la Cour constitutionnelle de faire l'interprétation de la Constitution. Mais la Constitution est claire. La Constitution a été inspirée par l'accord d'Arusha. L'esprit de l'accord d'Arusha était qu'un président puisse diriger deux mandats et un mandat renouvelable une fois. Donc, qu'un président ne pouvait pas briguer un troisième mandat. Donc, on ne voit pas comment on dit qu'il faut demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution alors que les dispositions sont claires. Et nous avons peur qu'une fois que le président demandera à la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution, on n'a pas confiance au juge burundais. On a déjà montré que la justice burundaise n'est pas du tout indépendante. Que les juges de la Cour constitutionnelle, comme les autres juges, les autres juridictions, sont nommés par l'exécutif. Donc, ils ne sont pas indépendants. C'est pour cela, au lieu de saisir une cour qui n'est pas du tout indépendante, il faut être honnête et laisser la place
aux autres.
Quelle a été la réaction des autorités burundaises à votre appel?
Bon, on ne nous a pas donné la réponse, mais on a écrit une lettre. On va continuer à faire des actions. Il y aura beaucoup d'actions pour s'insurger en faux contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Maître Armel Niyongere, membre du collectif Campagne citoyenne Alt au troisième mandat, il était joint à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au micro, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Le Monde aujourd'hui. En République démocratique du Congo, le gouvernement avait donné aux rebelles hutu-rwandais jusqu'au 2 janvier pour déposer les armes ou être désarmés de force. Depuis la fin de cet ultimatum, Kinshasa a annoncé une offensive contre les rebelles FDLR qui sévissent dans l'est du pays. Sur les difficultés d'une telle opération, Idriss Fall a recueilli l'analyse de Godé Chiriaguma, un Congolais originaire du Massissi et actuellement installé aux États-Unis.
C'est depuis 1996 que la population de l'Est de la République démocratique du Congo est sous le bruit des armes. Et maintenant, on veut encore amener des armes. On ne sait pas le nombre de ces FDLR qu'on dit qu'on va chasser. Ce sont les enfants des Rwandais qui sont restés au Congo. Ils parlent déjà la langue locale. Et quelques-uns parmi eux se sont déjà mariés à nos filles congolaises. Alors, quels sont les systèmes que le gouvernement qui attaque par les armes va utiliser pour distinguer les FDLR des Congolais?
Mais on a déjà essayé le désarmement volontaire. Très peu se sont rendus. Il y en a qui ont déposé les armes parmi les FDLR.
Le volontariat, ça va de pair avec la sécurité. Si même on parvenait à avoir 2, 3, 4, 5 des FDLR, on les amène au Rwanda, c'est comme les amener dans le feu.
Mais s'ils ne sont pas désarmés, il n'y aura jamais de paix dans l'Est.
Oui, le FDLR n'est pas dangereux pour les Rwandais. Au contraire, il est dangereux pour les Congolais. Il tue au Congo, il ne tue pas au Rwanda. Ce sont les autorités congolaises qui devraient s'imposer et demander à l'opinion internationale de demander à Kagame de passer par le pourparlers comme eux aussi, il force le Congo de passer dans le pourparlers pour les différentes rébellions à la République démocratique du Congo. Le président de la Tanzanie, Kikwete, avait proposé cela, que le Rwanda passe par les négociations politiques.
Kagame a déjà tenté des opérations conjointes pour désarmer les FDLR.
Ces Rwandais qui sont restés au Congo, ils ont toujours la peur d'être tués quand ils arrivent au Rwanda. Ils n'ont pas la garantie. Mais s'ils passent par les négociations avec des accords signés, ça peut leur donner au moins de la garantie. S'il y a des PP, alors le monde entier peut demander le gouvernement en place, disait par Kagame, leur demander, mais pourquoi vous avez passé à côté des accords que vous avez eus? Je me souviens, il y avait eu un représentant de FDLR qui venait du Nord, qui vous prit précisément dans les territoires de Massissi. Ce type-là, il était parti représenter le FDLR, mais quand il est arrivé juste dans la ville de Gisenyi, il a été attrapé, si je peux utiliser le terme, on l'a mangé avant qu'il n'arrive même dans la capitale de Kigali.
Godé Chiriaguma, un Congolais originaire de Massissi, il est installé actuellement aux États-Unis.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, au micro Camille Grosdidier. Le président Barack Obama a demandé hier au Congrès d'autoriser le recours à la force militaire contre l'État islamique en Irak et en Syrie, enclenchant ce qui pourrait être un long et houleux débat à la Chambre des représentants et au Sénat. L'initiative suscite déjà les critiques de certains républicains et démocrates, mais pour des raisons tout à fait différentes. Les précisions de Chérubin Dorcil.
Cela faisait des mois que le sénateur démocrate démocrate Tim Kaine de la Virginie, un proche allié du président Obama, lui demandait d'obtenir le consentement du Congrès aux opérations militaires en cours contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Enfin, nous sommes au point où le Congrès va pouvoir prendre au sérieux son obligation la plus solennelle, s'est exclamé hier M. Kaine. Après tout, a-t-il rappelé, la War Powers Resolution de 1973 avait été adoptée pour justement limiter le pouvoir du président d'envoyer les forces américaines au combat à l'étranger pour plus de 60 jours sans une déclaration de guerre du Congrès. Tout en saluant lui aussi la requête du chef de l'exécutif, le président de la Chambre, le républicain John Boehner, se dit préoccupé que celle-ci n'accorde pas assez de flexibilité aux chefs militaires américains. On n'est qu'au début de longues délibérations à venir, a-t-il souligné. Le dépôt de cette demande d'autorisation est le début d'un processus législatif. Il y aura des audiences, un examen en comité des différentes dispositions du projet, j'en suis sûr, à mesure que nous avançons dans ce processus. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire avant que je ne puisse dire ce qui me convient ou pas, a expliqué le député John Boehner. Plusieurs démocrates ont exprimé la préoccupation inverse, estimant que la requête du président limitant à 3 ans la durée des opérations contre les militants islamistes est trop vague. Le député Adam Schiff est du nombre. L'autre problème majeur est que la formulation relative à la présence des troupes au sol est très vaste, très ambiguë. Aucun de nous ne sait vraiment ce que signifie « des opérations offensives durables ». Cet insurgé, le député Schiff, qui est d'avis que le projet a été délibérément rédigé de façon ambiguë. Pour sa part, la chef de file de la minorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, a exprimé l'opinion de beaucoup d'Américains qui redoutent une implication des États-Unis dans une autre guerre terrestre prolongée au Moyen-Orient. Certains analystes prédisent que le président Obama pourrait faire face à plus d'opposition de la part des législateurs de son propre camp que des républicains qui contrôlent maintenant la Chambre et le Sénat.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Affaire SwissLeaks, le consortium international des journalistes d'investigation a frappé fort en dévoilant un système de fuite de capitaux africains encouragé par la banque britannique HSBC à travers sa filiale suisse entre 2006 et 2007. Nathalie Barge a joint à Dakar Pierre-Édouard Fade, rédacteur en chef de Wolf TV.
La seule personne dont le nom a été révélé et qui soit véritablement une personnalité connue, c'est Youssou Ndour. Mais en tout cas, le sentiment le mieux partagé, c'est le sentiment de surprise, quoi.
Et vous-même, en tant que journaliste, est-ce que vous avez eu l'opportunité justement de faire des recherches pour voir si ces informations pouvaient être recoupées?
Absolument, ça c'est le travail, je dirais, ordinaire d'un journaliste. Hein. Les confrères des différents pays concernés sont en train de travailler activement pour connaître en réalité les personnalités qui se cacheraient derrière ces pratiques-là. Parce qu'il faut qu'on le dise également, c'est une pratique grave. Dans un pays où on parle beaucoup de patriotisme économique, aller planquer son argent dans des paradis fiscaux en Suisse me paraît quelque chose d'exagéré et grave.
Mais ce n'est tout de même pas nouveau, ce type de comportement.
Absolument pas. Moi, je ne suis pas surpris parce que bon, ça, c'est une pratique très connue en Afrique. On sait que les dirigeants africains, après le pouvoir est truc, bon, ils envoient de l'argent en Suisse où ils sont beaucoup plus en sécurité. Mais la surprise, c'est le nombre, quoi, des personnes ou bien le montant même de l'argent planqué en Suisse dans un pays aussi pauvre comme le Sénégal. Si on vous parle de plus de 90 milliards ou bien, je ne sais pas, de 900 milliards planqués quelque part en Suisse, il y a de quoi réfléchir.
La société civile est très active au Sénégal. Est-ce qu'elle envisage éventuellement de demander des comptes?
C'est l'une de mes surprises. On n'a pas encore entendu un membre éminent de la société civile prendre la parole et peut-être dénoncer de telles pratiques et même éventuellement envisager un plan d'action.
Pierre-Édouard Fay, rédacteur en chef de Wolf TV au Sénégal. Washington, la Voix de l'Amérique, délestage et coupe de courant sont les mots les mieux partagés dans beaucoup de pays africains. Qu'ils soient riches ou pauvres, personne n'est épargné. Les défis sont nombreux pour garder les maisons éclairées et les machines en fonctionnement sur le continent. Michel Joseph.
Une petite entreprise de Nairobi avait débuté par la location des costumes de fête et s'est maintenant développée dans le secteur des services aux restaurants et aux supermarchés. L'entreprise fournit plus d'une tonne de crème glacée par jour. C'est une histoire à succès, mais pour Betty Mbite, qui gère cette petite compagnie, le manque d'électricité met en péril ses activités.
À un moment, l'année dernière, lorsque nous sommes restés 3 jours sans électricité, nous ne pouvions rien faire du tout parce que les machines ont besoin du jus pour marcher, une chambre froide a besoin d'électricité et aucun travail ne peut être fait sans électricité.
Pour garder ses clients heureux, il faut donc du courant 24 heures sur 24, car sans courant, il n'y a pas de glace. L'électricité est donc l'une des premières dépenses de cette compagnie. Le problème n'est pas spécifique au Kenya, on le rencontre dans presque tous les pays africains. L'électricité est souvent inaccessible, trop chère et trop souvent non disponible. Quelques 600 millions d'Africains n'y ont pas accès. Le continent consomme moins d'électricité que partout au monde, mais paye le même tarif qu'aux États-Unis et le double de celui en vigueur en Asie de l'Est. Donald Kaberuka, président de la BAD, la Banque africaine de développement, au forum de Davos cette année.
At this moment, every single African country is experiencing energy shortages.
En ce moment, chaque pays africain subit des pénuries d'énergie et des coupures de courant. Cela coûte au continent 2% de son produit intérieur brut. En fait, un leader africain dit que nous sommes un continent de miracles. Si nous avons une croissance de l'ordre de 5%, sans assez de courant, imaginez ce que ce serait si nous avions suffisamment d'électricité.
Selon lui, le manque d'infrastructures est l'un des plus gros défis pour la distribution du courant. Même des pays riches comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria en arrivent à rationner le courant. Et d'après le patron de la BAD, la solution ne saurait être pays par pays.
It is not possible for our individual.
C'est impossible pour nos 54 pays pris individuellement d'avoir la sécurité énergétique à partir de leurs ressources domestiques. Nous devons créer un marché régional viable pour l'électricité. Et ça, c'est possible.
Bien sûr, les investisseurs mettent de l'argent pour des projets d'énergie renouvelable sur le continent. Cela aide un peu, mais il y a beaucoup à faire pour combler le fossé.
Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui et une très bonne journée.